Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, comme tous les vendredis, voici une nouvelle édition du Forum de la Presse. Ce soir, le Grand Dialogue, le Forum de la Presse, bien sûr, va réfléchir sur trois sujets. Le bilan d'IBK, 4 années après, est-ce que le bilan est positif ou négatif? Également, le régime de sanctions adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Également, la trêve renouvelée entre la CMA et la plateforme. Nous n'oublierons pas également le rapport sur la presse écrite qui est appelée à disparaître selon certains observateurs ici au Mali. Nos invités, ils sont au nombre de 3 personnes, Makan Konaté, journaliste, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays et Yeya Tandina de l'ORTM depuis Tombouctou. Je suis Mouhamadou Touré.
Le Grand Dialogue.
Alors, pour cette première partie du Forum de la Presse, nous allons parler du bilan d'IBK 4 années après. Les avis sont partagés. La majorité reconnaît des épreuves difficiles, mais pense que des progrès significatifs ont été enregistrés. L'opposition, en revanche, dénonce l'insécurité grandissante, la mauvaise gouvernance caractérisée, selon elle, par des scandales de corruption. Alors, Makan Konaté, que pensez-vous du bilan de Ibrahim Boubacar Keïta depuis le 4 septembre 2013?
Merci. Cela fait maintenant 4 ans que le président Ibrahim Boubacar Keïta est à la tête de l'État. Pour parler de son bilan, bon, je dirais il n'y a pas que il y a des aspects positifs et il y a des aspects négatifs.
Quels sont les aspects positifs?
Au plan positif, je crois savoir en ce qui concerne l'armée que le président de la République a dû fournir des efforts. Par exemple, un soldat malien qui est tué sur le front, qui est tué au front, on lui donne 10 mois de salaire, contrairement à un sac de riz et 50 000 francs.
À sa famille, quoi.
Voilà, qu'on donnait au défunt. Mais il a rehaussé à 10 mois de salaire. Et certainement avec...
10 mois de salaire.
C'est un premier pas, c'est une bonne chose. Je crois qu'il peut faire mieux encore. Il peut faire mieux. Et deuxième chose, c'est qu'en ce qui concerne, par exemple, les per diem des chauffeurs, au niveau de la fonction publique, Quand on prend les chauffeurs, ce problème-là avait été déjà posé. Je me rappelle bien par le secrétaire général de l'UNTM, Chaka Djakité, à l'époque, pour dire que les primes des chauffeurs sont vraiment réduites.
Mais quand on va au plan général, au niveau sécuritaire, au niveau de la santé,
oui, je n'ai pas terminé d'abord avec les primes. Allez-y. Donc c'était 2000 francs. C'était 2000 francs de primes par jour. Donc il a rehaussé ça à 20 000 par jour. Donc certainement c'est pour répondre à une revendication posée par la centrale syndicale du UNTM depuis le temps de Chaka Djakité. Bon voilà, j'ai retenu ces quelques points positifs dans sa gestion du pouvoir, mais les points négatifs.
On va revenir aux points négatifs, on va poursuivre avec les points positifs d'abord. Monsieur Yalkouye, est-ce que vous voyez des côtés positifs par rapport au bilan de 4 ans d'IBK au pouvoir?
Oh, moi, je vois un bilan catastrophique, hein, à mon entendement. Et je vais sur la base des raisons pour lesquelles le peuple malien a apporté sa confiance au président Ibrahim Boubacar Keïta.
Oui, mais restons d'abord du côté positif avant de revenir au côté négatif.
Je n'en vois pas.
Vous n'en voyez
pas.
Alors, M. Yeya Tandina, est-ce que vous aussi, vous voyez ou vous ne voyez pas de côté positif par rapport au bilan d'Ibrahim Boubacar Keïta?
Bonsoir d'abord à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent sur l'ensemble du territoire national à travers Tamani. Moi, je dirais qu'il y a des hauts et des bas.
Quels sont les hauts?
Tombouctou, par exemple. Oui, j'ai dit à Tombouctou d'abord. Il faut reconnaître qu'après la reconquête, nous avons vu à travers le PURD, le programme d'urgence pour le retour de l'administration, ça a été une réussite comparativement aux autres régions du Nord. Et nous avons bénéficié à travers ce programme d'urgence de la route Tombouctou-Kavara qui était là, qui était vraiment un casse-tête et qui embêtait beaucoup les populations au sein de la ville. La route Tombouctou Léré actuellement, dont les travaux ont été arrêtés depuis Sumpi il y a un certain temps et qui doivent reprendre également à partir de ce jour, au moment où je vous parle, la station vient de commencer les travaux ce jour même, de reprendre les travaux du moins. Donc ça c'est ensuite il y a eu la centrale thermique. La centrale thermique qui est en train d'alimenter, qui va alimenter très bientôt toute la région. Elle est déjà opérationnelle car elle prend en compte toute la ville de Tombouctou. L'extension du réseau électrique public. Et voilà en sorte quelques points que les Tomboxiens retiennent quand même du mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta. Au plan sécuritaire, nous allons revenir avec les concerts parce que là c'est catastrophique. Voilà donc ce qu'on peut retenir quand même au niveau des actions par rapport, comparativement aux autres régions du Nord. J'ai dit que Tombouctou est en avance sur les autres villes.
La majorité présidentielle pense qu'il y a eu un bilan positif concernant la réforme de l'armée, l'emploi des jeunes et la promotion du genre. Est-ce que vous confirmez cela?
Bon, moi je ne pense pas, je ne confirme pas. Je ne confirme pas parce qu'il y a toujours des faiblesses, surtout au niveau genre. Et au niveau de l'armée, nous attendons beaucoup parce que dans des zones comme les régions du Nord, je vous jure que c'est difficile à l'armée d'assurer la sécurité à travers les moyens terrestres. Et le vecteur aérien n'est jusqu'à présent pas là sur place, donc vous voyez ce que ça fait. Et sur ce plan, j'ai dit que nous ne croyons pas qu'on peut vraiment aboutir à une sécurité totale, je ne dirais pas parfaite, mais totale du territoire, tant que d'autres moyens ne sont pas redéployés. Et l'effectif est jusqu'à présent à déplorer. Pour vous dire encore, c'est les mêmes militaires qui reviennent, ils sont fatigués et tous les jours. Et vous savez, surtout la rotation des militaires, ça se fait dans des conditions difficiles parce que le contingent qui quitte du côté A pour le côté B doit quitter sans les armes pour rejoindre le côté B où ils doivent recouvrer leurs armes. Vous voyez ce que ça pose. Donc pour une armée qui est sur trois fronts, la lutte contre le terrorisme, l'intégrité territoriale et la lutte contre le banditisme, c'est pas facile.
Alors, monsieur Yalkouye, vous disiez que le bilan est catastrophique. Alors, sur quoi vous vous basez pour dire que le bilan est catastrophique?
Oui, moi, je vais sur la base des promesses présidentielles parce que Ibrahim Boubacar Keïta, il a été porté à la magistrature suprême sur la base de certaines promesses qu'il a eu à faire au peuple. Et parmi ces promesses, il y a d'abord la résolution de la crise du Nord, qui aujourd'hui, tout le monde sait que sur le terrain, franchement, il n'y a pas un résultat réconfortable en tant que tel. Au regard de tout ce que nous avons vu dans la mise en œuvre de l'accord, d'ailleurs, qui a été contesté depuis le départ, depuis la réflexion et sa matérialisation sur le terrain. Et par-delà également, ça c'est le Nord. Le Nord, tout le monde sait que ça ne va pas là-bas. Au-delà de cela également, il faut aussi tenir compte un peu de ce qui est aujourd'hui une raison aussi capitale de la grogne sociale. Pratiquement dans tous les secteurs, nous avons de sérieux problèmes. Même si à un moment donné, le gouvernement a tenté de désamorcer la bombe. Mais nous avons vu que sur le terrain, jusqu'à preuve du contraire, rien ne va. Rien ne va. Vous allez prendre le côté de la santé, ça ne va pas. Vous allez prendre l'éducation, n'en parlons pas, puisqu'il y a aussi les syndicalistes qui se préparent dès la rentrée prochaine. Ils vont aller en grève illimitée. Ça, c'est au niveau fondamental et secondaire. Et l'enseignement supérieur aussi, il y a de sérieux problèmes avec les grèves incessantes des professeurs de l'enseignement supérieur. Nous avons même, à un moment donné, les étudiants sont sortis pour réclamer. Franchement, ils ont demandé à ce que les professeurs et également le gouvernement songent vraiment à l'avenir des étudiants, des enfants du pays. Donc pratiquement, presque tous les secteurs prioritaires sur lesquels IBK avait promis, franchement, de rétablir l'honneur du Mali et de faire en sorte que le Malien puisse vivre de façon décente. Nous avons vu que c'est le contraire qui se manifeste sur le terrain, pratiquement sur tous les plans.
Alors, est-ce que la situation s'est dégradée avec IBK ou est-ce que elle était déjà comme ça, il n'a pas pu relever le défi?
Non, et quand il venait, il y avait une certaine stabilité. Il y avait une certaine stabilité, même si nous prenons un peu le problème du Nord. Le problème du Nord avec la transition, Diokounda également des émissaires qui étaient sur le front pour le retour à la normale.
mal avec les pourparlers au niveau de Ouaga. Ils avaient quand même marqué une avancée considérable. Et nous avons vu qu'avec la rupture avec Ouaga et le fait de mettre dans la poubelle l'accord qui a été signé à Ouaga et retourné vers l'Alger, donc on a redistribué comment on appelle les cartes à nouveau. Et à ce niveau également, nous avons vu que l'accord, franchement dire, dès sa conception à ce niveau, les gens ont soulevé pas mal d'inquiétudes. À l'époque, les tenants du pouvoir voyaient en ces gens comme si ce sont des égoïstes ou des apatrides. Et malheureusement, Dieu faisant les choses, l'évolution quand même de la situation sur le terrain les a finalement donné raison. Parce que nous voyons un peu, même dans l'application de l'accord, nous avons vu les différentes étapes ici, on a du mal à les assurer sur le terrain. Et imaginez un peu aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, les étapes prioritaires n'ont pas été encore matérialisées sur le terrain. Vous vous imaginez aujourd'hui, les groupes armés détiennent les groupes qui sont sur le terrain, qui ont dit qu'ils sont avec l'État malien, ils détiennent jusqu'à preuve du contraire les armes.
Et tant qu'on, la CMA également.
Alors que dans l'accord est très clair. Tant qu'on ne procède pas, c'est une étape prioritaire.
Nous allons parler de cette trêve entre CMA et plateforme également. Alors, Tandina, avant de revenir à vous, Makan Konaté, est-ce que vous également, vous pensez qu'il y a des côtés négatifs comme Yalkouye les a cités?
Allô?
Tandina, oui?
Oui, j'ai dit que au plan sécuritaire et en même temps la connexion qui a pris une ascension vertigineuse. Voilà donc les deux points que déplore ici de ce côté du nord du pays. Et c'est qu'on a remarqué que peut-être qu'avec la conquête du pays, que l'administration, que les citoyens allaient opter pour un Mali moderne, mais malheureusement la corruption est en train de tout reprendre et puis. Voilà un peu ce qui fait, nous fait perdre beaucoup d'espoir. Et au plan sécuritaire, on s'attendait que toutes les zones de ces régions doivent être aujourd'hui couvertes par l'armée malienne, ce qui n'est pas fait. L'espoir n'est même pas permis à la situation actuelle que nous voyons, que toutes ces régions soient couvertes par l'armée malienne. Parce qu'en réalité, on ne voit pas de signe favorable à cela. Toutes les armées contrôlent un secteur, l'armée malienne est notre secteur. Et voilà, la charia est appliquée quelque part, donc voilà quelques indices qui prouvent que jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas arrivé à notre fin.
Michel Konaté, vous vouliez réagir par rapport au côté négatif?
Oui, côté négatif, moi je parlerai surtout de déception. Une déception d'abord au sein de l'armée. Vous vous souvenez que quand le général, à l'époque, capitaine Amadou Aya Sanogo avait fait le coup d'État, il avait mis en prison, pratiquement, il a fait arrêter beaucoup de leaders politiques. Et celui qui était resté chez lui, et même protégé par les hommes de Amadou Aya Sanogo, c'était Ibrahim Boubacar Keïta.
Pourquoi?
Parce qu'il pensait que... C'est pourquoi je parle de déception. Parce qu'il pensait que quand Ibeka allait venir au pouvoir, que c'est un espoir pour l'armée, compte tenu des propos qu'il tenait avant d'être président de la République.
Pour le Mali ou pour l'armée?
Pour l'armée, pour le Mali. Donc, ils l'ont protégé et les Aya Sanogo ont fait même campagne pour Ibrahim Boubacar Keïta, une première au sein de l'armée. Une fois élu, voilà, nous constatons que c'est la déception. Déception, parce que nous l'avons dit à un moment donné, les PGA de nos troupes qui se trouvent sur le terrain étaient détournés par les hauts gradés de l'armée. Nous avons constaté qu'il y a eu des surfacturations quant à l'achat de matériel militaire. Nous avons constaté qu'il y a eu détournement de carburant, etc., etc.
Ça, c'est bon, du côté de l'armée, ça, maintenant, du côté de la santé.
Ça, c'est au sein de l'armée. Mm-hmm. Et puis, Ibeka a tenu des propos qui avait sonné comme une sorte de bombe dans le cœur des Maliens. Quand il est venu, il dit « Oui, moi, président de la République, je ne vais pas négocier avec ceux qui ont les armes. » Il voulait parler, il faisait allusion aux rebelles. Mais par la suite, il s'est assis à la même table que les rebelles pour négocier. Quand il est venu, il dit « Bon, voilà, moi, mon quinquennat, mes 5 ans, je les place sous le signe de la lutte contre la corruption. » On a parlé tout de suite de l'armée. Le scandale au sein de l'armée, le matériel militaire, le scandale des engrais frelatés et tant d'autres scandales, hein, l'achat de l'avion présidentiel, etc., etc. Donc voici deux propos que le président a tenus. Je place mon mandat sous le signe de la lutte contre la corruption, et la corruption n'a pas été combattue comme les Maliens le souhaitaient. Je ne vais pas m'asseoir à la même table avec des gens qui ont les armes. Vous êtes allé vous asseoir à la même table avec ces gens. Donc voici des choses qui sonnent comme une sorte de déception.
Alors il a fait beaucoup de promesses en disant je le dis, je le ferai, Inch'Allah. Certains observateurs pensent que Ibeka ne mesurait pas la dimension de la situation du pays. Est-ce que vous partagez cette...
Ne pas mesurer la dimension de la situation du pays. Quand on devient président de la République, on est entouré de conseillers. On connaît la situation. Ibeka connaît le Mali bien avant d'être président de la République. Il a été ambassadeur, il a été ministre, il a été premier ministre avant de devenir président de la République. Donc, il connaît la situation du Mali. Donc, quand tu viens au pouvoir, tu tiens des propos, il faut les tenir. Parce que c'est le peuple qui te regarde. C'est eux, c'est ce peuple-là qui a voté pour toi. Donc, quand tu t'engages à donner satisfaction à ce peuple et que tu ne le fais pas, tu as failli. Ça, c'est une faute, parce que c'est un engagement qu'il a pris. Et normalement, Ibeka même doit présenter ses excuses au peuple malien pour n'avoir pas tenu certaines promesses qu'il avait tenues et donner des explications pourquoi. Pour que nous puissions comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais il ne l'a pas fait. Ibeka, en général, se contente de passer par les leaders religieux, par les communicateurs traditionnels. Mais c'est une partie du peuple, mais ce n'est pas eux, le peuple. Le peuple se trouve un peu partout. Et le peuple a besoin d'informations. Le peuple a surtout besoin d'informations. Et quand tu t'engages à faire quelque chose et que tu n'arrives pas à le faire, aie le courage politique de venir devant ce même peuple pour dire « Voici, j'avais décidé de faire ça et je n'ai pas pu le faire parce que... » C'est ça la communication.
Alors, 30 secondes pour chacun avant d'entamer la seconde partie. Déjà, il y a l'opposition qui pense que le bilan est mitigé. Tcheblin Dramé estime que l'insécurité a gagné le centre du pays et la mise en œuvre pour l'accord pour la paix connaît un retard significatif pour lui. Le reste du mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka devrait s'atteler à la bonne organisation de l'élection présidentielle pour assurer l'alternance. Alors, Yeya Tandina, que pensez-vous de cette déclaration de Tcheblin Dramé qui pense que Ibeka doit juste organiser l'élection présidentielle de 2018?
Bon, en réalité, c'est des déclarations politiques. Chacun a sa vision. Mais moi, je pense que c'est difficile quand même par rapport aux objectifs qui se sont fixés de les atteindre en une année, parce qu'après les 4 ans, c'est facile de voir quand même les résultats. Mais comme je l'ai dit, en tant qu'observateur au niveau de la région de Tomouk, je pense qu'il y a des hauts et des bas. Et parmi ces résultats, moi je parle quand même de progrès au niveau de la région de Tomouktou, malgré qu'il y a eu une résistance pacifique ici. Donc cette résistance pacifique a payé pour les communautés aujourd'hui qui reconnaissent qu'il y a eu au moins le goudron qui était un rêve, qu'il y a eu beaucoup de réalisations. Mais par rapport à l'insécurité, les populations sont restées à leur faim. Et je ne pense pas que d'ici une année, on pourrait combler ce vide.
Yalkouye, est-ce que vous pensez qu'il reste une année pour Ibeka avant les élections 2018, que quelque chose va changer?
Absolument rien. Du moment où, pendant les 4 ans, on a rien vu franchement de positif, c'est pas les une année qui reste qu'il faut vraiment espérer jusqu'à présent. Parce que 2018, déjà, nous serons à l'orée des campagnes et tout le monde connaît les politiques qui vont s'orienter vers comment peut-être préserver le fauteuil ou également par peur de se faire détrôner, ils vont vraiment s'orienter vers d'autres actions qui n'ont rien à voir avec celle qui exprime l'aspiration du peuple aujourd'hui. Et moi, je trouve que là où nous sommes aujourd'hui, franchement, il faut préparer l'après Ibeka, parce que ce qu'il a présenté pendant les 4 ans, ça veut dire qu'il n'a aucune solution pour ce pays. Et ceux qui l'entourent également ont vraiment prouvé au peuple malien qu'il ne peut absolument rien faire pour ce pays-là.
Quand on a dit 30 secondes, à quoi peut-on s'attendre pour...
Oui, si nous ne prenons garde, nous partons directement vers une crise électorale. en 2018, si nous ne prenons garde. D'abord, le fichier électoral n'a pas été nettoyé. Hein, l'URD avait envoyé une délégation au niveau de la délégation générale des élections pour dire qu'enlever au moins les noms des morts. Semble-t-il, le délégué général n'a pas voulu faire ce travail-là. Le fichier n'a pas été nettoyé. De son élection à maintenant, il y a 4 ans. En 4 ans, il y a des jeunes qui ont eu l'âge de voter, qui doivent se faire inscrire sur la liste électorale. Il y a tout ce travail-là qui doit être fait. Il faut imprimer ceci, cela. Je crois que en 2018, on ne peut pas, le Mali ne peut pas être en mesure d'organiser les élections. Et là, dans ce cas, nous partons vers une crise électorale.
Vous pensez que les élections de 2018 seront reportées ?
Je pense, je pense. Et je suis surpris. Quand j'ai écouté votre papier, je suis surpris d'attendre que Tchébilé a parlé d'alternance. Parce qu'au niveau de la plateforme, il y a le collectif pour la défense de la République qui est représenté dans le porte-parole Erasbach, qui avait demandé l'alternance au sein de la plateforme. Mais en Assemblée générale, cette alternance-là a été rejetée. Et je suis surpris que Tchébilé vienne parler d'alternance aujourd'hui. Je suis vraiment surpris.
Merci. Fin de cette première partie. Avant de nous retrouver pour la seconde partie, je rappelle que vous suivez le Forum de la presse.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
C'est aussi les réseaux sociaux et vous pouvez réagir sur, excusez-moi, sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou également sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Ce soir, deuxième partie, nous allons parler du régime de sanctions adopté par le Conseil de sécurité à l'unanimité et il vise à lutter contre ceux qui entravent la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Alors, Makan Konaté, ce régime de sanctions, qu'est-ce qu'il va changer concrètement dans la mise en œuvre de l'accord de paix qui est en retard selon certains observateurs?
Ce régime de sanctions, s'il est bien appliqué, je dis bien s'il est bien appliqué, il peut apporter beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache la face. Les leaders de ces mouvements rebelles, ce sont des gens qui voyagent beaucoup. Ils ne peuvent pas faire une semaine, deux semaines. Sur place, ils voyagent beaucoup. Donc, parmi les sanctions, je crois qu'il est question d'interdiction de voyage.
Il y a deux aspects, geler les avoirs et interdire les voyages.
Les deux peuvent être combinés. Non seulement geler les avoirs, mais interdire de voyager. Et ce qui va leur faire le plus mal, parce que c'est eux en général, moi je les appelle les troubles paix. Je les appelle comme ça, les Yad Agali, les chefs de ces mouvements rebelles, je les appelle les troubles paix.
Yad Agali, ce n'est pas beaucoup plus terrorisme que rebelle?
Oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Amadou Koufa, Yad Agali et tant d'autres là, ce sont non seulement des terroristes, mais ce sont des rebelles. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas rester sur place. Ils sont toujours en mouvement. Et ils se pavanent à travers le monde comme ça. Entre le Mali, la France, la Belgique, etc. Il faut que cela s'arrête.
Et concernant les groupes armés, l'État malien également, qui sont également concernés, la CMA, la plateforme...
Je vais vous dire une chose. Les gens pensent que les mouvements proches du Mali, tels que Gatia, que ces gens-là sont en train de tuer, de perturber la mise en... Non, c'est pas vrai. Ils sont toujours provoqués par les mouvements armés.
Avez-vous des preuves?
Ils sont toujours provoqués.
Comment?
C'est eux qui font toujours les frais. C'est eux qui font toujours les frais. Toujours, il y a des morts dans leur camp. Et quand on les attaque, ils sont obligés de réagir. Sinon, ils sont là. Ils sont là pour préserver leur position. Ils n'attaquent pas.
Yaya Tandina, vous êtes au nord du Mali, à Tombouctou. Partagez-vous l'avis de Makan Konaté?
Bon, pas tellement. Ce qui est sûr, moi, je... J'ai dit que ce régime de sanctions mis en place, c'est à l'image des autres régimes appliqués dans les autres pays. Nous avons vu comment les grandes puissances au niveau du Conseil de sécurité En tout cas, elles sont d'accord avec la mise en place du régime, mais malheureusement, à l'application, c'est autre chose. C'est ce que nous allons vivre au Mali. Et parce que je serais d'accord que dès que la sanction tombe et qu'un général Gamou soit sanctionné, le Mali va contester. Et si de l'autre côté, Dilalak Chérif sera sanctionné, vous verrez que les mouvements armés également vont contester. Alors, je me pose la question, comment on pourra même l'appliquer quand on sait déjà que les belligérants eux-mêmes ont des conventions entre eux. Et parce qu'il s'agit pour ces deux mouvements, la plateforme et la CEMA, de jouer d'abord sur leurs propres intérêts. De jouer à leurs propres intérêts. Ce n'est pas l'intérêt de la patrie d'abord. C'est que les gens font la confusion. C'est d'abord à leurs propres intérêts qu'ils font toute cette guerre. Alors, si je dois gagner Kidal ou bien si une partie ou autre doit gagner quelques parties du Nord, je veux, parce que si vous prenez tout de suite l'entente entre le Mali et puis ces gens-là, Kidal a été fermé au Mali, Gao pour la plateforme, Tombouctou pour la CEMA, c'est une division qui ne dit pas son nom. Donc moi, je crois que c'est des intérêts qui sont en jeu. Si la sanction tombe sur une partie, vous verrez la contestation des autres. Et l'application serait autre chose. Moi, je ne suis pas tellement optimiste.
Yalkouye Tandina pense que l'application va faire défaut.
Oui, évidemment. Moi, je pense que aujourd'hui, ce régime de sanctions, je le considère comme de la poudre aux yeux, hein, parce que imaginez un peu, la sanction, elle est prévue par l'accord. Et en principe, depuis la mise en œuvre de l'accord, on devait tenir compte de cela puisque c'est un élément capital pour qu'on puisse aller vraiment vers la mise en œuvre vers la sortie des crises. Mais il n'a jamais été appliqué. Ça a été réclamé pendant combien de temps? Il n'a pas été appliqué. Et également, l'une des étapes prioritaires aussi qui est le cantonnement et le désarmement n'est pas encore fait. Et comment voulez-vous qu'on puisse quand même sanctionner des gens qui détiennent des armes aujourd'hui? Puisqu'ils défendent des intérêts personnels. Tout le monde le sait, comme M. Tandina l'a si bien dit depuis Tombouctou, il connaît mieux les réalités sur le terrain que nous. Mais tout le monde sait que ce sont des intérêts qui sont en jeu dans cette crise malienne. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, le fait que le Conseil de sécurité de l'ONU ait statut sur cela aujourd'hui, c'est une suite logique de la situation contesté par le peuple malien sur le terrain aujourd'hui, puisque la crise n'a que trop duré. Imaginez un peu, nous avons vu même l'entrée du gouverneur à Kidal. Il a fallu franchement dire des manifestations ici. Les gens se sont exprimés un peu partout, ont montré leur indignation par rapport à la position de la France et la communauté internationale.
Certains même ont dénoncé le fait que le gouverneur soit en visite dans sa propre localité.
Dans sa propre localité, et puis il n'était pas accompagné par l'armée. Ni par un membre du gouvernement, ni par peut-être des agents de l'État. Il est parti seul et il a été reçu par les membres de la CMA comme si peut-être quelqu'un qui est un ambassadeur qui venait juste montrer sa lettre d'accréditation. C'est juste un peu ça. Et aujourd'hui, je pense que en ce moment, la France a cherché, peut-être c'est stratégique, chercher à désamorcer la bombe, faire croire au peuple malien que, bon, franchement, elle est là pour le Mali et que les gens comprennent vraiment que c'est la situation qui est un peu difficile sur le terrain. Mais rien s'en faut. Et également, aujourd'hui, le fait que ce régime tombe aujourd'hui, moi, je trouve franchement dire que c'est de la poudre aux yeux. Il ne faut vraiment pas croire à ces choses-là. Et le peuple doit rester déterminé par rapport à cette situation. Parce que tant qu'on ne se donne pas les mains, la situation-là va perdurer. Au regard, franchement dire, des investissements qui sont faits sur le terrain au nord du Mali, là-bas, ça sous-entend que ces gens-là sont là pour l'éternité.
Mais ce régime veut sanctionner. Est-ce que les pays qui vont aider, par exemple, les acteurs, si un pays aide, par exemple, la CMA ou la plateforme, est-ce que ce pays également pourra être sanctionné? Par exemple, les pays dans lesquels transitent les armes ou qui financent même.
Bon, je ne sais pas comment ça va se passer sur le terrain. Parce que moi, franchement, depuis que j'ai appris cette nouvelle, et la première idée qui m'est venue, c'est juste ce que j'ai dit ici, c'est de la poudre aux yeux et puis ça se limite là. Le reste, je n'ai pas cherché à comprendre, franchement dire.
Ok, Makan Konaté, est-ce que vous pensez que ceux qui vont appuyer les auteurs pourront être également sanctionnés?
Oui, bon, et je préfère dire d'abord qu'il faut souligner que les sanctions ont été demandées par les autorités maliennes. C'est le Mali qui a demandé
le mois dernier
des sanctions. Et deuxième chose, je pense que ces sanctions-là sont les bienvenues. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une certaine complicité qui ne dit pas son nom et qui est en train à présent de caractériser les régions nord du Mali.
Entre qui et qui ?
J'indexe d'abord les troupes Barkhane et la France. Nous ne pouvons pas comprendre que les Français ne puissent pas nous dire où se trouve aujourd'hui Yadda Gali. Nous ne pouvons pas comprendre que les Français ne puissent pas nous dire où se trouve Amadou Koufa, avec tous les moyens sophistiqués dont ils disposent, et qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur ces gens-là, et qu'ils sont toujours en train de perturber la paix. Et pendant ce temps, le président français enfonce le clou, met la pression sur les autorités maliennes, leur demande d'aller rapidement vers une mise en application des accords d'Alger. Cela ne peut pas se faire comme ça. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la colère de bon nombre de Maliens. On ne le comprend pas.
Yaya Tandina, Makan Konaté accuse la France de ne pas être de bonne foi. Est-ce que vous pensez, vous avez la même analyse?
Bon, en tout cas, ça m'étonne avec tous les moyens que détient la France. Pour moi, on a vu la France nous faire sortir Muammar Kadhafi dans sa piscine. Je ne vois pas quelqu'un qui est dans la nature, comment on pourra pas le voir. Donc, j'ai dit que ça laisse beaucoup de suspicions autour de la chose. Et aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas. Et tout récemment, on a vu quand le QG de la MINUSMA a été attaqué, il a fallu que l'armée malienne elle-même vienne libérer la MINUSMA. Barkhane était là pour couvrir seulement au niveau des rues, mais elle n'a pas directement réagi sur le terrain. Ça laissait les populations sur leur faim. Et tout ce qu'on voit aussi, patrouille aérienne, c'est généralement les hélicos de la MINUSMA à qui les gens n'ont même pas de considération. Nous souhaitons voir quand même cette armée française faire des grosses démonstrations, nous faire voir, nous amener, et surtout qu'ils font tout leur travail dans la plus grande discrétion. On ne sait pas comment ça se passe, on attrape par-ci, on libère, on prend on accuse des gens par-ci, après on ne comprend absolument rien. Donc c'est ce qui crée du flou en réalité entre les populations et cette puissance intermédiaire.
Alors nous allons rester toujours avec vous, Yaya Tandina. Il y a eu une trêve de 15 jours qui a été signée entre la CMA et la plateforme qui est arrivée à terme mercredi et qui a été renouvelée pour 30 jours. Aujourd'hui, pourquoi les groupes armés ne peuvent pas tout simplement déposer les armes vu que l'accord a été signé et pour qu'il puisse être mis en œuvre?
Moi, je crois que plus il y a prolongation, c'est au bénéfice des populations. D'abord, nous saluons cette trêve encore qui est prolongée. Mais aujourd'hui, le plus grand obstacle, c'est qu'on ne parvient pas à rendre opérationnel le MOC. Et si le MOC était déjà opérationnel, ou bien que les DDR ont commencé, on n'allait même pas parler de trêve. Parce qu'ils sont obligés de se taire, ils sont obligés d'exécuter seulement les lois du pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vois que l'évolution, c'est seulement au niveau de Tombouctou où le MOC est en train de faire un chantier qui a pris en compte toutes les faiblesses au niveau des autres, au niveau de Gao, par exemple. Et donc, on a pris les points faibles de Gao aujourd'hui pour en faire des points positifs à Tombouctou. Je crois que si on parvient à donner seulement le coup d'envoi au niveau de Tombouctou, ça pourrait refléter sur les autres localités. Mais tant qu'on ne le fait pas et que les groupes sont armés, je crois que c'est des trêves qui vont continuer. Et puis cette trêve, ça ne considère qu'une partie des Kidal. Vous verrez demain ou après-demain dans une partie du Nord, deux groupes vont s'affronter. Peut-être qu'ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas de nous ou autre chose, mais vous verrez que des groupes vont encore s'auto-accuser. C'est ça le problème. Mais que l'histoire va nous donner raison, si nous observons, d'ici les 30 jours, vous verrez qu'il y aura des dérapages.
Monsieur Yalkouye, ici, c'est le MOC, mécanisme opérationnel de coordination, et le DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion, qui bloque cette situation. Pourquoi ces processus n'arrivent pas à être concrétisés sur place, notamment à Gao Kidal?
Oui, c'est un peu ça, parce que nous avons vu que même avec l'opérationnalisation du MOC sur le terrain, on a l'État malien a resté des difficultés et aussi vraiment des dégâts très importants, surtout avec ce qui s'est passé à Gao, tout le monde le sait. Et évidemment, la vie a soulevé quand même des imperfections au niveau du MOC de Gao. Et nous souhaiterons franchement dire que dans les autres localités, ils pourront faire tout pour ne pas être butés à ces mêmes problèmes. Mais le problème est que le MOC, c'est une bonne chose, c'est un pan de l'accord, mais dans son application sur le terrain également, ça a vraiment fait des impacts négatifs qui font que les gens ont peur aujourd'hui. Imaginez un peu, au niveau de Gao avec le MOC, pratiquement la population
a vu aussi l'insécurité, une sorte d'insécurité grandissante, puisque pratiquement toutes les petites attaques qui se font à l'intérieur de la ville ou aux alentours, pratiquement ce sont ces mêmes gens qui sont indexés parce qu'ils ont les armes, ils se promènent avec. Et également, ça a aussi créé une sorte aussi de clanisme à l'intérieur. Vous voyez, ceux qui sont de la plateforme se promènent à part, ceux qui sont de la CMA se promènent à part. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas cette cohésion qui est vraiment tant recherchée entre les différents éléments, les différentes unités qui composent aussi le MOC à ces
troupes
niveaux.
Qui doivent sécuriser, on a vu leurs véhicules qui ont été volés.
Volés également. Donc cela veut dire qu'il y a franchement beaucoup de problèmes à ce niveau. Mais aujourd'hui, il faut forcément aller également faire le désarmement, comme vous l'avez si bien dit. Tant qu'on ne fait pas le désarmement, tout ce que nous allons faire, franchement, ça va être comme si on verse de l'eau sur la terre.
Makan Yalkouye pense que tout passe par le désarmement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre solution ?
Si, il y a une autre solution. C'est que la France joue vraiment sa partition. Que les Français arrêtent de jouer à un double jeu. Parce que moi, personnellement, j'ai même...
Vous pensez que c'est la France qui est à l'origine
des... Tout le problème du Nord, c'est les Français. Tout le problème du Nord, c'est la France. C'est eux. Et ils sont là-bas, ils savent pourquoi ils sont là-bas. Ils sont là-bas pour d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du peuple malien. Ils sont là-bas pour leur propre intérêt. Et très généralement, ce sont pour des intérêts économiques.
Merci.
Donc il faudrait que la France arrête cela et qu'elle joue réellement sa partition. Et ce ne sera pas facile, parce que les Français sont là maintenant, au Nord. Ils se sont bien installés là-bas. Et leur départ, ce n'est pas pour aujourd'hui. Hein.
Merci. Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani. Également sur nos répondeurs 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Tout de suite pour la troisième partie.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Le forum de la presse ce vendredi, nos invités sont Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, Yeya Tandina de l'ORTM et Makan Konaté, journaliste indépendant. Alors nous allons parler maintenant de la presse écrite qui est censée disparaître selon certaines organisations qui l'ont annoncé dans un rapport la semaine dernière. Alors pourquoi Yalkouye, ces organisations pensent que la presse écrite risque de disparaître, vous qui êtes responsable d'une presse écrite au Mali?
Oui, quand on prend un peu le cas du Mali, nous affrontons d'énormes difficultés dans l'exercice de ce métier, et au regard franchement des difficultés financières que nous affrontons, et également les associations fêtières aussi qui sont censées protéger aussi cette profession aujourd'hui n'assument pas leurs responsabilités à hauteur de soi.
Notamment la CEP.
Notamment la CEP. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que nous avons de sérieux problèmes. Imaginez un peu même par rapport aussi à l'aide à la presse. La somme, elle est insignifiante. Et même dans la répartition de la somme également, il n'y a jamais eu de transparence dans la répartition de la somme. Et cela fait que ça crée une sorte de tension au niveau de la presse, et cette tension aussi a provoqué une certaine division qui fait que franchement les gens se regardent en chien de faïence. Donc ça sous-entend que cela fait que l'intérêt général n'est plus une priorité pour les différents responsables d'organes de presse. Et ça fait aujourd'hui que même au niveau de l'ACEP, le fait qu'il y a toujours des tiraillements par-ci par-là pour des intérêts individuels, ça fait que franchement il y a d'autres associations qui ont été créées suite à l'ACEP, parce que au niveau de l'ACEP, ceux qui sont censés gérer ont fait tout pour écarter les autres. Et au regard de tout de cette division qui ronge davantage aujourd'hui la presse écrite, franchement, il n'y a pas de lendemain meilleur. Et moi, je me dis que leur responsabilité devrait être quoi en premier? C'était de faire en sorte que l'État puisse songer à cette corporation aujourd'hui. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Quand on prend un peu l'histoire, depuis la création de l'ACEP jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, tous ceux qui ont eu à gérer cette boîte, quand on vous parle franchement de leur gestion, c'est catastrophique.
Certains dénoncent également la qualité de ces journaux, de ces presse écrites.
Oui, effectivement, c'est ça. Puisque s'il n'y a pas de moyens,
il n'y a pas de moyens. Donc ceux qui sont là, les reporters qui sont sur le terrain, chacun court derrière le prix de condiment. Le patron de presse, il court derrière le prix de condiment. Donc il est difficile quand même d'avoir du professionnalisme dans l'exercice. C'est très difficile. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et la plupart également de ces organes de presse aussi sont manipulés par les politiques. Il faut le dire clairement. Ils sont cachés derrière la plupart des organes de presse.
Et certains pensent aussi que ces journalistes ne sont pas bien payés.
Ils ne le sont pas. Rares sont les organes ici qui payent leurs journalistes. Rares sont les journaux dans lesquels les journalistes ont des salaires. C'est très difficile. Et imaginez même un peu dans certains organes, le reporter, il part faire le reportage. On lui donne peut-être le prix de transport sur le terrain, le perdième, peut-être 10 000, 15 000 francs. Le directeur veut avoir sa part là-dedans. Vous imaginez un peu, 15 000 francs, bien 20 000 francs, le directeur demande au reporter de lui donner au moins 5 000 ou 10 000. Nous sommes dans quel pays? Et franchement, de tout ça, ce sont des actes aujourd'hui qui donnent vraiment à réfléchir. Et si on tient garde à l'allure où vont les choses, moi, je vois vraiment la presse écrite sur un chemin, franchement, de disparition. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment sonner, il faut appuyer sur la sonnette d'alarme pour qu'on puisse faire en sorte que ceux qui exercent dans la presse écrite puissent vivre dignement de leur profession.
Yaya Tandina, est-ce que vous pensez, où se trouve le problème selon vous concernant la presse écrite?
Bon, d'abord, le problème, c'est, moi, je vois d'abord à deux niveaux, au niveau formation, au niveau information également des différents reporters. Parce que nous avons remarqué, moi, d'ailleurs, à un moment donné, je pensais qu'aujourd'hui, on n'allait même pas trouver la presse écrite, mais je crois que l'espérance de vie est en train d'augmenter et il pourra survivre. Si l'État parvient à réorganiser le secteur, si l'État parvient à mettre les moyens à la disposition de ce secteur, parce que la presse écrite contribue énormément au développement et participe à la vie politique et à la vie, au développement de la nation. Donc moi j'ai dit d'abord, si vous voyez en réalité les problèmes qui existent sur le terrain, j'ai l'habitude d'accueillir certains reporters qui viennent des organes de presse écrite. Je sais dans quelles conditions ils viennent, je sais dans quelles conditions ces gens-là vont sur le terrain. Et si ce n'est pas par solidarité, je crois que ce serait difficile qu'ils apportent même avec eux des éléments. Cette solidarité que nous devrons créer autour d'eux, c'est cette solidarité que l'État malien doit avoir autour de la presse écrite, car vous savez, tout État puissant doit avoir une presse écrite. Et cette presse écrite, ce n'est pas à dire obligatoirement qu'elle parle de l'État. Elle doit être là pour veiller, dénoncer, elle doit veiller, comme on le dit, presser. Donc cela contribue à beaucoup de choses pour le développement.
Vous avez parlé du rôle de l'État, mais est-ce que la responsabilité première n'incombe pas aux acteurs eux-mêmes d'abord?
Oui, dans un premier temps, comme j'ai dit, vous voyez les méthodes de recrutement même de ces reporters. Ils viennent du néant, ils savent que j'ai dit, ils manquent de formation. Et c'est pourquoi ils donnent souvent même des mauvaises informations. Et la plupart aussi s'intéressent seulement à ce que disent les réseaux sociaux pour pouvoir enrichir leur site. Ce n'est pas ça. Pas de témoignages fortuits sur le terrain. Ils n'ont pas les moyens en réalité d'appeler les acteurs sur le terrain. Ça, souvent, ça pose problème. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit. L'État doit, dans un premier temps, c'est lui qui doit en réalité mettre les moyens à la disposition de ses organes de presse. Et aujourd'hui, pour que les acteurs eux-mêmes puissent mieux travailler. Mais si on les laisse, chacun à son côté, chacun va chercher son pain seulement, mais pas pour l'avancée de la presse écrite.
D'accord. Makan Konaté, selon vous, qu'est-ce qui va empêcher la disparition de la presse écrite eux-mêmes?
Vous savez, le doyen Gassou Drabou, lors d'une de ses communications, il a fait une déclaration que je n'ai pas oubliée. Il a dit que beaucoup de jeunes gens viennent dans la presse, pas par amour, mais par nécessité, parce qu'il y a le chômage. Et ça explique beaucoup de choses. Et je vais vous donner un autre exemple. Laissez-moi parler sur ce sujet.
Allez-y.
Il y a quelques années, les épouses des chefs d'État étaient là, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un journaliste sénégalais. Je suis de la radio, il était aussi également de la radio, d'une radio privée. Il m'a invité. On est sorti. Tout ce que nous avons consommé, il a payé. Mais il a réclamé une facture. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous réclamez la facture? Il dit, non, je viens d'échanger avec toi. Hein, vous m'avez appris beaucoup de choses. Hein, mais une fois retourné, à Dakar, on me rembourse mon argent. J'ai dit, ah bon, on a parlé salaire. Il me dit que lui, il est stagiaire. Il est payé à 150 000 francs CFA.
Un stagiaire.
150 000 francs CFA.
Frais de stage, bon, donc, pas salaire.
Voilà. Donc, vous voyez, comparez ça un peu à un journaliste malien. 150 000 francs, ça, c'est le même. Il y a des directeurs de publication qui ne touchent pas cela.
La différence puis, est énorme Kone, selon Makan Kone,
l'ancien président de la maison
Merci
de la presse,
le temps. On aura d'autres occasions, Makan, de parler de cette question. Alors, c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Nos invités, Makan Konaté, journaliste indépendant, Boubacar Yalkoué du journal Le Pays et Yehia Tandina de l'ORTM Tombouctou. Je suis Mohamedou Touré. À la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Haloud Moundi.
Chenne Berry.